Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence. Rachel Lamy, bonjour.
Bonjour.
Dernière étape, dernier voyage dans cette série avec ce livre paru aux éditions Salvator. La lectrice que j'ai été a voyagé, a fait quelques pauses aussi pour méditer et puis recevoir un peu ces messages et tous ces témoins que vous avez écoutés. Écoutés aussi avec le cœur et qui vous ont laissé au fond des messages d'espoir et au fond des messages de vie, car la vie et la paix et la réconciliation apparaissent tout au long de cet ouvrage. Et vous écrivez « Depuis 9 mois, je plonge dans les extrémités du monde en voulant découvrir la force et la grandeur de l'être humain. Je découvre le summum de son horreur. Je suis ébranlée. Cela me donne le vertige. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'effroi? Pourquoi être en vie si c'est pour la détruire ainsi? Quel est le sens de tout cela ?» Continuez, vous écrivez dans ce moment un peu éprouvé dans ce grand tour du monde. « J'ai peur de notre société numérique. Hein. » Vous avez peur aussi, vous les nommez, de ces bombes nucléaires. En fait, voilà, les peurs apparaissent. Ces peurs peuvent aussi, et dans cette écriture de votre ouvrage, rebondir sur l'actualité du moment avec cette guerre qui s'est éclairée entre l'Ukraine et la Russie. On peut penser aussi à la bombe nucléaire. Quel est votre avis, enfin personnel, vous qui, au fond, travaillez pour que devenir jardinier de paix, comment avoir une lecture et avoir une attitude aujourd'hui debout, d'espérance et de joie, malgré, je dirais, la situation actuelle de notre monde, Rachel Lamy. Et merci.
C'est une sacrée question. Alors, je vais commencer, oui, en reprenant par rapport aux peurs. C'est vrai qu'au bout de 9 mois de voyage, j'ai un vrai contre-coup de tout ce que j'ai pu entendre, où je suis un peu en alerte avec des personnes qui ont pu témoigner de comment les guerres étaient arrivées. Souvent, les personnes ont été surprises elles-mêmes par l'arrivée de la guerre. Pensaient pas que la guerre allait arriver si rapidement. En plus, ensuite, il y a le désarroi. Au moment où la guerre éclate, l'impuissance qui gagne tout le monde est à la fois comme une spirale infernale qui entraîne les foules à passer à l'acte, de devoir choisir. Souvent, c'est un choix, soit je fais le choix de tuer, soit je suis tuée, avec la peur que sa communauté, sa famille soit détruite, anéantie. Et il y a la prise de conscience ensuite de comment on se relève, où ça prend vraiment du temps et des années, voire des générations après qu'une guerre ait éclaté, pour se reconstruire. Et à ce moment-là du voyage, oui, je me pose énormément de questions et j'ai peur de prendre conscience que toutes les armes que nous possédons sur Terre, toutes ces armes qui sont utilisées, dont les armes nucléaires, sont toujours utilisées comme une arme de dissuasion massive. C'est l'argument qui est souvent donné. Et au final, moi, en entendant les témoignages des personnes, je prends conscience que la guerre arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé en Ukraine et que le danger du nucléaire est un réel danger. C'est-à-dire que pour moi, on est face à un réel paradoxe de se dire que c'est par les armes qu'on va acheter la paix. Mais est-ce qu'une arme sert à véritablement construire la paix en profondeur? Qui peut m'affirmer qu'une arme peut servir à construire la paix? Une arme, son utilité, c'est de tuer. C'est de tuer un homme, c'est de tuer une femme, c'est de tuer un enfant. Une arme nucléaire, aujourd'hui, est 10 fois plus puissante que les armes, que les bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Est-ce que de posséder une arme, une bombe nucléaire, sert réellement à construire la paix, en sachant qu'une bombe, ou en tout cas tout ce que possède aujourd'hui la France comme armement nucléaire, peut détruire un quart de l'humanité? Si on rassemble toutes les armes nucléaires du monde, on est capable de détruire 10 fois l'humanité. Est-ce que réellement on est en train de préparer une paix? Et je suis rattrapée par ce danger de me dire, par cette peur en tout cas, de me dire il y a un véritable danger, puisque la décision d'appuyer sur le bouton de lancer une arme nucléaire appartient à un groupe, mais au final, il y a une personne qui prend la décision, le dirigeant d'un pays, et c'est très rapide. Et pour moi, on est face à ce paradoxe. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, je sens beaucoup d'impuissance, beaucoup d'incompréhension, et je sens beaucoup de peur dans la société, ce qui est légitime. Et à la fois, une fois de plus, pour moi, ça m'interpelle par rapport à tout ce que j'ai entendu. Toutes les personnes que j'ai pu voir ont pu témoigner. Ce n'est pas quand la guerre éclate que, bien sûr, beaucoup de choses peuvent naître. Et heureusement, tous les témoins que j'ai rencontrés nous donnent ce message que des actions peuvent naître au cœur du chaos. Mais finalement, comment on évite ce chaos? Ce qui se passe en Ukraine peut arriver très rapidement dans beaucoup de pays. Comment ça nous interpelle sur cette manière de préparer la paix, de maintenir cette paix? La question de la prévention, par exemple, la prévention des conflits, en France, pour nous, ça, peut-être que ça nous parle peu, puisque nous vivons dans un pays en paix depuis plus de 70 ans. Tous les gens que j'ai rencontrés dans mon voyage, quand je leur parle de prévention des conflits, ils savent ce que ça veut dire. Ils ont perdu leurs proches, leurs parents, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. Pour eux, la question de la prévention a tout son sens. Comment on fait pour rester en vie et pour vivre en paix? Le tout, puisque quand on vit dans un pays en conflit, on ne vit pas en paix. On vit dans la peur, on vit dans l'insécurité. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot insécurité? On l'utilise énormément aujourd'hui en France. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on prépare la paix, une fois de plus, avec les armes? Mais comment, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on met en place pour que la paix existe? Cela demande de l'harmonie, de l'entente, de comprendre l'autre, une fois de plus, de se plonger dans la réalité de l'autre, d'ouvrir des espaces de dialogue, de débat, d'échange, des espaces pour se soutenir. Les gens aujourd'hui sont dans beaucoup d'impuissance, aussi figés par la peur. On sent la montée des extrémismes qui grondent énormément. Les gens s'enferment ou s'isolent avec tout un bagage de préjugés, de stéréotypes sur les uns, sur les autres. Comment tout cela aujourd'hui, on le déconstruit petit à petit? Pour non pas se dire la jeunesse d'aujourd'hui aura de sacrés défis à mener et puis quel monde nous leur laissons, et de juste se poser la question désespérée. Mais si on veut leur laisser un monde auquel ils croient, comment nous, dès maintenant, nous agissons pour ce monde? Il n'y aura pas un coup de baguette magique où le monde va se transformer. C'est chacun à sa place, à son échelle, dans le contexte où on est aujourd'hui, avec des défis majeurs, qui a son rôle à jouer, en sachant qu'on est une vraie fourmilière géante. Et tous les gens que j'ai rencontrés donnent ce message. Si elles-mêmes n'avaient pas cru que c'était possible, n'avaient pas cru en l'homme, en l'être humain, en l'humanité, n'avaient pas gardé cet espoir, aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai rencontrées ne me donneraient pas ce témoignage. Blaise, au Rwanda, n'aurait pas fait ce chemin pour se pardonner à lui-même après avoir commis des crimes. Sœur Maria Manour, tous les jeunes qui ont bénéficié de l'éducation à la paix aujourd'hui n'auraient pas une telle ouverture envers les communautés religieuses, culturelles, etc., pour agir comme des ambassadeurs de paix aujourd'hui. Tout cela, ça se construit petit à petit, et il y a besoin vraiment de personnes qui gardent espoir et qui osent faire leur part, et bien d'avoir conscience qu'on n'est pas seul, mais que des personnes partout dans le monde agissent pour construire le monde que nous voulons donner à nos enfants.
Vous nous rappelez aujourd'hui qu'aujourd'hui, on est
presque en état de guerre avec l'Ukraine et la Russie et puis toutes les tensions mondiales que vous connaissez aussi dans le monde. La peur est omniprésente aussi souvent dans les cœurs. Comment sortir de la peur pour devenir au fond des hommes et des femmes gardiens de cette paix, pour préserver finalement la paix de l'humanité? Et merci.
Pour moi, ce que j'ai envie de dire à l'auditeur ou l'auditrice qui m'écoute, c'est de l'interpeller sur la manière de quel est ton rêve, quel est ton espoir, quel est ton envie, ton élan, à quoi tu as envie de contribuer, et de se dire qu'on est face à des défis, mais qu'il y a besoin de nourrir, nous sommes en vie. Et il y a besoin de prendre soin de cette vie, de nourrir la vie et de célébrer la vie. Il y a besoin de créer des espaces, des collectifs, de créer une grande toile géante pour tous se soutenir mutuellement. On a tous quelque chose à apporter au monde, on a tous à apprendre les uns des autres, à se soutenir collectivement. Quand quelqu'un a de l'élan et puis finalement un contre-coup, l'idée c'est que collectivement on puisse garder cette force ensemble et vraiment de nourrir la joie et de prendre conscience de ce qu'on a et de ce qu'on veut mettre en place pour garder l'espoir avec joie et élan.
Alors, merci pour ce réveil et merci pour cet envoi aussi presque en mission. Rachel Lamy, auteur de ce livre Addict à l'espoir, paru aux éditions Salvatore. Merci pour tout. Au revoir.
Merci. Je voulais dire...